Et donc, nous recevons ici en studio Nicolas du Comité des Arméniens de Belgique. Bonjour Nicolas, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà ?
Bonjour Lélia. Oui, je m'appelle Nicolas Tavitian, je suis donc le président du Comité des Arméniens de Belgique, qui est l'organisation unitaire des Arméniens de Belgique. Il y a en Belgique entre 20 et 30 000 Arméniens, originaires de toutes sortes de pays différents, dont en grande partie l'Arménie, la République d'Arménie. Ils ont toutes sortes d'associations, ils sont présents dans toutes les villes de Belgique, mais ils sont réunis au sein du Comité des Arméniens de Belgique qui les représente et qui, dans des moments comme celui-ci, les organise au niveau national.
Comment et quand est né ce comité ?
Oh, il est né, alors tenez-vous bien, en 1922.
Il y a longtemps.
Il y a très longtemps, oui. Donc, c'était pas moi le président à l'époque.
Ça ferait long, oui.
Oui. Et donc, il y a des Arméniens en Belgique depuis longtemps, à vrai dire depuis le Moyen-Âge. Mais la communauté actuelle, on peut la dater du lendemain du génocide de 1915. Donc, après la Première Guerre mondiale, des réfugiés arméniens sont venus en Belgique et ils ont constitué ce comité. Donc, dont les statuts datent de 1922.
Et on évalue la communauté arménienne ici à Bruxelles à combien de personnes environ
Donc, entre 20 et 30 000 personnes, mais c'est un petit peu au doigt mouillé. On va faire une estimation, une sorte de recensement statistique pour essayer de voir combien d'Arméniens, mais voilà, on ne doit pas être très loin du compte. On a quand même les chiffres de l'immigration, on sait combien de personnes sont venues d'Arménie, mais comme je vous le disais, beaucoup d'Arméniens ne sont pas venus d'Arménie, puis d'autres sont venus d'Arménie, puis ils ont eu des enfants. Donc,
ben oui,
on ne sait pas comment ça évolue. Mais voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est une minorité significative, mais c'est pas issue de l'immigration. Mais ce n'est pas l'une des grosses minorités, c'est pas comme les minorités turques, marocaines.
Cela dit, elle existe, elle est là. Hein.
Voilà,
tout à fait. Et alors, au sein du comité, qu'est-ce que le comité fait en Belgique ?
Alors, en ce moment ou en général ?
En général, d'abord.
En général. Donc, notre première préoccupation, c'est d'animer la vie associative et culturelle. Il y a des moments symboliques, comme par exemple le 24 avril. Traditionnellement, le 24 avril, c'est le jour de commémoration du génocide des Arméniens. Et donc, on organise au niveau national cette commémoration, aussi l'implication du monde politique belge dans la commémoration. Et je dois dire qu'on a beaucoup de soutien, beaucoup de coopération là-dessus. Le génocide, comme vous savez, est un moment important, évidemment triste, tragique, mais important de l'histoire arménienne. C'est un tournant qui a déterminé l'histoire des Arméniens, aussi bien ceux qui n'ont pas pu rester là, donc la diaspora, que ceux qui ont pu rester en Arménie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre dans le comité ? On gère un centre culturel à Bruxelles, auquel tout le monde est le bienvenu, et où on essaye de montrer tous les talents de la communauté arménienne, dans le domaine musical, théâtral. Il y a une école dans ce centre culturel, enfin, toutes sortes de choses de ce type. Voilà, je pourrais continuer, mais je crois que vous avez une idée générale. Donc, il y a de la représentation, certes, mais la culture, développer une culture arménienne propre à la Belgique, donc en communication avec les Arméniens du monde, puisqu'il y a des Arméniens dans presque tous les pays du monde, sauf en Antarctique, dit-on. Mais en même temps, on a une spécificité belge, nous sommes citoyens belges. En général, les Arméniens sont très bien intégrés en Belgique. Voilà, et donc c'est cultiver cette combinaison, cette particularité arméno-belge.
Et donc, les événements actuels nous amènent à vous rencontrer, en fait. Voilà, on ne vous connaissait pas, en tout cas pour ma part, je ne connaissais pas le comité, en fait, avant. C'est une amie arménienne qui m'en a parlé et m'a parlé donc du rassemblement de la semaine passée. C'était jeudi dernier, donc devant, c'était place le rond-point Schumann, c'est ça, à 17h30. Aujourd'hui, on vous invite pour parler du conflit en fait qui se passe là en ce moment. Voilà. Alors c'est pas un conflit qui débarque là comme ça depuis 3 semaines. C'est quelque chose qui l'attend depuis un certain moment. Alors d'abord, la région de laquelle on parle, est-ce que vous pouvez un peu expliquer où elle se situe? Donner un contexte géographique.
Alors effectivement, on va faire un zoom alors peut-être. On se trouve dans le Caucase du Sud, c'est-à-dire dans le triangle entre l'Iran, la Turquie et la Russie. Donc vous sentez déjà que ça sent le piquant. Donc entre ces trois puissances régionales, vous avez trois petits pays, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Trois petits pays reconnus. Qui sont issus de l'Union soviétique, comme la Russie, bien sûr. Leurs frontières ont été tracées par l'Union soviétique, par Staline, pour être clair, donc dans les années 20. À l'intérieur de l'Azerbaïdjan, Staline avait créé le Haut-Karabakh. Pourquoi ? Le Haut-Karabakh, c'est un territoire peuplé d'Arméniens, mais que donc les dirigeants soviétiques, Staline, avaient placé à l'intérieur de l'Azerbaïdjan. Et le conflit dont on va parler, plus qu'un conflit, la guerre actuellement, qui est une guerre tragique de très grande intensité, de très forte intensité, est le résultat de cette situation-là.
Et donc, quand vous dites le résultat de cette situation-là, comment est-ce qu'elle a débuté ? Donc, il y a en effet ces frontières, en fait, qui sont délimitées, comme souvent, en fait, de façon assez arbitraire. Et donc, qu'est-ce que ça a amené et depuis quand, en fait ?
Voilà.
Enfin, on l'a compris, mais alors, comment, en fait, ça s'est amené là jusqu'en 2020 ? Parce que ça fait quand même longtemps, en fait.
Oui. Alors, avec votre permission, je commencerai en 1988.
Avez ma permission.
Sous l'Union soviétique, il n'y avait pas de discussion. On vous mettait où on vous mettait. Et à vrai dire, il y a eu quelques protestations dans les années 70 des Arméniens du Karabakh contre leur traitement par les autorités de Azérie, mais on a réglé la question assez rapidement à la manière soviétique. Je sais même qu'il y a des militants flamands. Il y a Willy Kuipers, qui est un ancien de la Volksunie, qui s'est retrouvé dans les prisons. Non, pas dans les, il a été expulsé d'Union soviétique à l'époque pour avoir soutenu les militants arméniens. De l'époque du Karabakh. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. En réalité, le conflit actuel a commencé en 1988, puisque à l'époque a commencé la perestroïka. Donc la liberté d'expression, en gros, en URSS, Gorbatchev a décidé donc, de laisser les gens s'exprimer. Et dès qu'il l'a fait, les Arméniens du Karabakh ont demandé, même officiellement par un vote dans le soviet local, donc le conseil régional local, on va dire, un vote en demandant le rattachement du Karabakh à l'Arménie. Ils considéraient que c'était juste une correction administrative, que ce territoire peuplé d'Arméniens, historiquement arméniens, devait être rattaché à l'Arménie. Bon, Gorbatchev était placé devant une difficulté, parce que si on commence à retracer toutes les frontières internes, aussi légitime soit cette demande, on n'en aura pas fini, parce que Staline n'a pas bricolé les territoires soviétiques seulement à cet endroit-là. Donc ils ont tergiversé, et pendant qu'ils tergiversaient, le conflit sur place a escaladé. Donc d'abord, il y a eu un pogrom à Sumgayit, à côté de Bakou, donc en Azerbaïdjan, puisqu'il y avait, beaucoup d'Arméniens en Azerbaïdjan, dans l'ensemble de l'Azerbaïdjan, comme minorité. Et il faut savoir que historiquement, le Caucase est très mélangé, comme la population du Caucase était très mélangée. Donc, un pogrom à Sumgayit, des pogroms dans d'autres villes d'Azerbaïdjan, et puis finalement, en 1990, les services, l'OMON, ça s'appelait les services spéciaux soviétiques, commencent à déplacer des villages du Karabakh. Donc, demander aux gens d'un village de s'en aller carrément. Et les Arméniens du Karabakh se sont dit, voilà une déportation, et ils ont résisté. Et ça, c'est une cause célèbre. Vous connaissez peut-être la fondation Héritage à Moscou, qui défend les droits de l'homme, qui a été fondée par Sakharov, le défenseur des droits de l'homme, le prix Nobel de la paix. Donc c'était la cause célèbre de la perestroïka. Vous avez des parlementaires soviétiques qui sont venus dans ces villages assiégés par les troupes des services spéciaux, pour empêcher les autorités soviétiques locales de déporter la population et d'attaquer la population. Ils n'ont pas réussi. Le conflit a escaladé peu à peu. Donc on est en 1990, la fin de l'Union soviétique, c'est en 1991. À partir de là, l'armée russe, enfin l'armée soviétique, s'en va, laisse une partie de son équipement sur place, et c'est la guerre. Donc entre les paysans du Karabakh, entre la population du Karabakh et l'Azerbaïdjan. Alors, ce sont des nouveaux pays. Ils n'ont pas d'armée propre, vous aviez l'armée rouge. Donc tout le monde bricole son armée avec l'équipement qu'on a, avec les officiers qu'on a, la compétence. Et donc la guerre commence, et la guerre s'accentue en intensité peu à peu, entre 1991 et 1994. Et finalement, en 1994, le Karabakh obtient son indépendance. Enfin, son indépendance de facto, bien sûr.
Donc un accord est trouvé à ce moment-là?
Non. Un cessez-le-feu est conclu à ce moment-là. Donc l'indépendance du Karabakh n'a jamais été reconnue par l'Azerbaïdjan, ni internationalement. Et j'ajoute, même l'Arménie ne reconnaît pas le Karabakh. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, pendant la guerre, a été mis en place le groupe de Minsk, un groupe de négociation, donc des médiateurs qui étaient chargés de trouver un compromis, une solution au conflit. Le groupe de Minsk est présidé par la Russie, la France et les États-Unis. Et le groupe de Minsk existe encore aujourd'hui, n'a pas fait beaucoup de progrès, mais le Karabakh n'est reconnu ni comme État indépendant, ni comme faisant partie de l'Azerbaïdjan. Contrairement à ce qu'on dit dans tous les médias, le statut du Karabakh reste indéterminé, il est en négociation. Si le Karabakh était reconnu comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, il n'y aurait rien à négocier. Le conflit, à partir du cessez-le-feu, le conflit armé cesse, en tout cas dans sa forme intense. On reste comme pendant la Première Guerre mondiale, dans les tranchées. Et on fortifie les tranchées et on achète de l'armement, tout ça pendant 25 ans. De temps en temps, il y a des escarmouches, parfois des combats un peu plus intenses, mais le plus intense de tous a eu lieu en 2016. Il a duré 4 jours et il a fait 200 morts. Donc, c'était à l'époque, c'était tragique, mais on est loin de ce qui est en train de se passer en ce moment. Ce qui se passe en ce moment, c'est une guerre d'ampleur avec des combats de plus en plus intenses et de plus en plus de morts.
Oui, les combats ont débuté là le 27 septembre.
Oui. Dimanche dernier, oui.
Oui, et donc vous avez des nouvelles, en fait, sur place.
Bien sûr.
Mm-hmm. Oui. Et là, en fait, comment ça se situe ? C'est une guerre, hein, c'est une
oui,
guerre.
Oui, c'est une guerre. Alors, comme vos auditeurs sont des gens qui connaissent la réalité de la vie, c'est une guerre. Donc, vous avez du côté de l'Azerbaïdjan, vous avez la Turquie qui vient les appuyer. La Turquie a fait venir des djihadistes qui sont des gens aguerris, mais maintenant au chômage, puisqu'ils ont terminé leur travail en Syrie. Enfin, ils ont échoué. Ils n'ont pas réussi à mettre en place un État islamique en Syrie. Certains sont passés par la Libye. On les ramène de Libye. Le nouveau front pour ces islamistes, c'est le Caucase.
Comme des sortes de mercenaires, en fait.
Ce sont exactement des mercenaires. Alors, on joue avec le feu, parce que l'Azerbaïdjan est théoriquement un État laïque. Mais on joue sur les identités. Quand on peut mobiliser les gens sur la base de leur identité musulmane, on le fait. Mais ça peut avoir des conséquences, il peut y avoir du contre-feu. Donc vous avez cette coalition. La Turquie, avec non seulement toute sa puissance militaire, mais son savoir-faire. Elle a une armée aguerrie, des officiers très professionnels, formés par l'OTAN. Donc nous sommes impliqués aussi, nous les Belges. Et une attaque avec des armes du dernier cri, compris beaucoup d'armes israéliennes. Vous savez que la technologie israélienne est très en pointe, particulièrement sur les drones, sur des missiles guidés, sur les bombes à fragmentation. Et donc, et avec tout ça, on attaque le territoire du Karabakh. Et les Arméniens...
Qui n'a pas cette technologie-là pour se défendre.
Qui n'a pas cette technologie, qui est armée par les Russes, essentiellement. L'Azerbaïdjan aussi est armé par les Russes. L'Azerbaïdjan, qui a beaucoup de pétrole, est armé par tout le monde. L'Arménie obtient des armes russes parce que c'est dans l'intérêt de la Russie d'équilibrer un petit peu les forces. pour des raisons dont on pourra éventuellement parler tout à l'heure si ça vous intéresse. Mais les Arméniens du Karabakh, comment résistent-ils ? D'abord, parce qu'ils vivent là, ils n'ont nulle part où aller. Et d'autre part, parce qu'il y a les montagnes. C'est très difficile, des montagnes et des forêts. C'est très difficile de conquérir des montagnes et des forêts. C'est donc ça leur force. Voilà. On en est là. Donc, les combats pendant toute la semaine ont augmenté en intensité. Il est clair maintenant que la réserve de potentiel du côté azéri est immense. Donc, ils lancent une attaque intense et puis ensuite, ils en lancent une autre immédiatement. Donc, en plus des djihadistes, j'ai vu ce matin, mais ça reste à confirmer, que le Pakistan a envoyé un contingent. Donc Stepanakert, la capitale du Karabakh, est bombardée directement. J'ai vu des images ce matin. Vous avez beaucoup, beaucoup de maisons détruites. Comme je disais, on utilise des bombes à fragmentation, c'est-à-dire des bombes qui létales. Si vous êtes dans le rayon d'action de la bombe, vous n'avez aucune chance de survivre, qui sont interdites d'ailleurs selon les conventions internationales. Et les Arméniens du Karabakh, de leur côté, ont détruit l'aéroport de Ganja. L'aéroport de Ganja qui est l'aéroport militaire qui servait de base aux opérations pour essayer de ralentir l'offensive. Voilà. Mais Ganja, c'est une ville. Donc la ville a sans doute elle-même été touchée. Voilà.
Ici, le comité, donc ce rassemblement la semaine passée, mais comment et qu'est-ce que vous pouvez faire en fait d'ici ?
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, on a envoyé de l'aide. Donc, dans le monde entier, la diaspora envoie de l'aide. On envoie des médicaments, puisqu'il y a beaucoup de blessés. Et aussi de l'aide financière. On a envoyé. À mon avis, l'essentiel qu'on peut faire, c'est de mobiliser nos gouvernements et la population ici. On se trouve dans une situation où l'Europe, d'un mot, pourrait, sinon arrêter les combats, en tout cas les limiter. Ou en tout cas forcer à des négociations, par exemple. Mais pour l'instant, l'Europe ne dit rien. Ce que dit l'Europe, c'est nous souhaitons que les combats s'arrêtent. Mais ce n'est pas comme ça qu'on arrête les combats. Il faut dire qui fait quoi. Et qui doit arrêter quoi ? Il se trouve que les médias ordinaires, pour la plupart, la semaine dernière, ont parlé de l'éruption des combats, comme si c'était une force de la nature, un volcan ou un tremblement de terre.
Et surtout comme si ça arrivait là tout de suite, d'un coup, en fait.
Il s'agit d'une attaque. Il s'agit d'une attaque par un côté contre l'autre. Alors, bien sûr, l'Azerbaïdjan a accusé les Arméniens de les attaquer. Les Arméniens ont accusé l'Azerbaïdjan de les attaquer. Donc, il y a l'un des deux qui ment. Mais il est tout à fait possible pour nos gouvernements, si nécessaire pour nos services secrets, d'aller comprendre ce qui se passe, qui a attaqué qui, parce que c'est une question importante. Autrement dit, si on ne dit pas qui attaque qui, c'est qu'on ne veut pas le dire. Voilà. Et tous les analystes un peu informés, d'après même l'information disponible publiquement, peuvent parfaitement savoir qui attaque qui. Je vous donnerai, si vous voulez, tous les éléments, mais ça n'est pas nécessaire. Il suffit de lire attentivement les documents pour le voir. Autrement dit, c'est une position diplomatique, c'est une position politique que de ne pas dire qui attaque qui et qui doit s'arrêter et qu'est-ce qu'on va faire s'il ne s'arrête pas. Et donc, ce silence de l'Europe est tragique. Enfin, c'est ce qu'on disait l'autre jour à la manifestation. Il est tragique, bien sûr, pour les Arméniens. Il est tragique pour l'Europe. Parce que je pense que ce genre de situation, on le sait, ça n'arrive pas qu'aux Arméniens. C'est arrivé à d'autres peuples, en particulier dans la périphérie de l'Europe. Et quelle leçon est-ce qu'on en tire ? Alors, je dois vous préciser, moi, je suis né ici en Belgique, mais mes parents sont nés en Belgique. Ma famille est arrivée de Turquie dans les années 20. Je suis européen. Je suis européen de naissance. Je suis même allé à l'école européenne ici. Donc, je suis baigné dans cette idée que l'Europe, c'est la paix. Et quand on voit le silence de l'Europe par rapport à ce conflit-là, et je pourrais en citer d'autres, mais je vais pas m'étendre aujourd'hui, c'est un très très mauvais présage pour l'avenir de l'Europe et de ce qu'elle est censée symboliser. si elle est incapable, parce qu'il s'agit de mots ici. On ne demande pas à l'Europe d'envoyer une armée, on lui demande juste de dire ce qui se passe et de dénoncer, voilà, et de dénoncer les attaques.
Ici, pendant le rassemblement, j'ai aussi cru comprendre que le message des gens qui se rassemblent ici est très pacifiste. Voilà.
Oui.
Et que, comme vous le disiez, c'est quand même quelque chose de très politique, mais qu'au sein des civils, on veut la paix.
Bien sûr, on veut la paix.
Il n'y avait pas, en tout cas, une revendication de dire on va battre l'Azerbaïdjan ou des choses comme ça, de cette façon-là.
Oui et non. Ça dépend de l'Europe. On veut la paix, c'est-à-dire la situation antérieure. Enfin, par rapport à la situation antérieure, les Arméniens ne voulaient rien. Si on laisse, il faut comprendre que quand vous avez un petit pays, enfin, si on met l'Arménie et le Karabakh ensemble, ça fait maximum 3 millions de personnes. Face aux 80 millions de Turcs, j'ai pas en tête les chiffres de l'armée, mais c'est proportionnel, aux 10 millions d'Azéris, sans parler si les djihadistes, les Pakistanais s'y mettent, ça veut dire quelle est la solution ? C'est le peuple en armes. C'est-à-dire que vous avez un peuple qui se militarise.
Et là, les gens sont recrutés, en fait.
Bien sûr, il y a une mobilisation. Mais ça peut même aller plus loin.
Il n'y a pas le choix, en fait.
Oui, il n'y a pas le choix, exactement. Donc les gens, les soldats deviennent des héros. Et je pense qu'il faut comprendre ce qui se passe dans ce genre de situation. Et d'autres pays ont connu ce processus. Les soldats deviennent des héros. À partir du moment où ce sont des héros, vous donnez le pouvoir à l'armée. Et à partir donc, vous avez besoin de vous défendre, vous avez besoin d'être un État fort, et vous vénérez le combat. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer pour les Arméniens. Et je ne peux pas, tout pacifiste que je sois, je ne peux pas critiquer ce processus, c'est indispensable. Il y avait une vidéo montrant dans une école des officiers expliquant aux jeunes filles, donc aux jeunes adolescentes, comment monter et démonter une mitraillette. Et des gens, des Européens, s'horrifier de ce qu'on apprend aux jeunes filles à se battre. Mais je pense que dans la situation actuelle, vu le danger existentiel qui existe, c'est leur rendre service, en tout cas à court terme, à ces jeunes filles, que de leur apprendre à se battre. Et si la paix, un jour, si une paix durable s'installe, il faudra juste désapprendre à tout le monde le militarisme. Mais en attendant, c'est la seule solution. Tant que le monde se tait, au point où il s'était actuellement.
Je propose de faire une petite pause musicale, Fred.
Oui, d'accord.
Et on revient tout de suite après.
Salade de Anix. Solo dolo no abandon. I own my own masters. Daddy like the Rasta. In Babylon no agro. Said it too many times. I don't fuck with Favo. Nigga, hey, how I'm living. But that's just how I got to. Watch you, yeah, they watch you. Watch it, they may pop you. Never cause they got to. That's just how they got you. Lock them, one lock you. Lock until they rot you. Made me wanna ride through. Show 'em just how I do. Roll it the machine, give me. Made me a disciple. Ran to my ancestors. Round before the rifles. Eiffel, that's what I'm high as. Get in the Eiffel. Make it three eyes full. Infinitide pool. Law up in the jungle. Lying on the humble. Rising for the rumble. Law up in the jungle. Law up in the jungle. Lying on the humble. Rising for the rumble. Walking down these lost roads. All I see is bars and barcodes. Too many lives this life is hard for. Genocide from in our minds of Darfur. With rappers shouting out racist white designers. Racist white designers with no melanin up in their advertisements. Polo, Gucci, Louis, Fendi. Racist white designers. But if we say Black Lives Matter, won't see their face behind it. I just see poor lost children looking at the sky. Blood dripping from the diamonds in their eyes. Chains hanging low, swinging side to side. Looking clean, chasing dirty dollar signs. Law up in the jungle. Law up in the jungle. Lying on the humble. Rising for the rumble. Law up in the jungle. Law up in the jungle. Lying on the humble. Rising for the rumble.
Voilà, les promesses de l'aube, toujours, on est le 5 octobre, et donc on parle de la situation en Arménie et au Karabakh.
Alors on parlait juste avant la musique du silence de l'Europe, et donc là c'est un peu essayer de comprendre pourquoi ce silence depuis tant d'années, et encore là aujourd'hui en fait, hein, c'est vraiment sur le temps et maintenant.
Ouais. Oui, alors effectivement, ce silence ne peut pas s'expliquer par une sorte de surprise. Tiens, un conflit qu'on ne connaissait pas. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Renseignons-nous, puisque l'Europe connaît très bien ce conflit. J'ai personnellement travaillé avec, à essayer de sensibiliser les décideurs européens et d'autres. Enfin, d'autres l'ont fait aussi. Des gens viennent du Karabakh. Mais ils retrouvent presque systématiquement porte close. Non pas auprès des parlementaires, parfois la presse en parle un petit peu, mais il y a une sorte de consensus dans les institutions européennes, dans les diplomaties, pour ne pas avoir de contact avec le Karabakh. Donc personne ne va au Karabakh, aucun diplomate ne va au Karabakh, aucun fonctionnaire de l'Union européenne va au Karabakh. Ça leur est juste interdit.
Et pourquoi ?
Et pour ne pas fâcher, bien sûr, l'Azerbaïdjan qui considère ça comme une atteinte à sa propre souveraineté, puisqu'ils considèrent que c'est leur territoire. Et pour ne pas fâcher, bien sûr, son grand allié, la Turquie. Et les deux sont très offensifs, ont appris à s'affirmer, et vous avez des deux côtés des raisons, des raisons économiques, stratégiques pour l'Europe de leur complaire. L'Azerbaïdjan est fournisseur de gaz à l'Europe et de pétrole. Il y a un gazoduc qui passe par le Caucase et qui va en Turquie, qui s'appelle Baku-Tbilissi-Ceyhan. Donc, c'est les villes d'origine et de destination qui fournit beaucoup de gaz à l'Europe, une grande proportion du gaz de l'Europe. Bon, ça, c'est pour l'Azerbaïdjan, c'est principalement le pétrole. Pour ce qui est de la Turquie, alors, on connaît davantage l'importance de la Turquie pour l'Europe. C'est la plus grande armée de l'OTAN après les États-Unis. C'est un lieu stratégique dans le Moyen-Orient pour toutes sortes de raisons. Une puissance militaire, aussi une puissance de nuisance. Je crois que la Turquie, c'est en grande partie une puissance de nuisance. Il faut compter avec eux dans le conflit en Syrie, dans le conflit en Libye. On a vu les ennuis qu'ils ont causés à Chypre et à la Grèce récemment. Peut-être surtout en ce moment, la menace d'ouvrir les vannes des réfugiés. Hein, puisque l'Allemagne a peur que de nouvelles vagues de réfugiés viennent. La précédente vague qui date d'il y a quelques années a beaucoup coûté au parti au pouvoir et ils en ont une terreur bleue. Donc la Turquie est une puissance très offensive qui sait qu'elle peut faire peur aux Européens et qu'ils ne l'arrêteront pas. Sauf Macron qui essaye un petit peu, mais qui est un petit peu tout seul dans son coin et qui a besoin qu'on le soutienne. Voilà, et je pense que c'est ça qui explique le silence dans les 25 dernières années. Alors, le silence, il va très très loin. Il faut savoir que, donc, il y a une quinzaine d'années, on a encouragé l'Union européenne à mettre en place des mesures des mesures de pour restaurer la confiance, puisqu'il n'y a aucun contact. Moi, je ne peux pas aller à Bakou, par exemple. On ne va juste pas me donner de visa. Tous les gens dont on sait qu'ils sont d'origine arménienne, a fortiori de citoyenneté arménienne, ne peuvent pas aller en Azerbaïdjan. Les Azéris qui viennent nous parler sont fichés et suivis. Donc, ils peuvent venir nous parler, mais il ne faut pas qu'on le mette sur le site web, pas de communiqué de presse, etc. Sinon, ils ont des ennuis en rentrant à la maison. Donc, il fallait, ce qu'on a insisté, c'est pas pour que l'Union européenne résolve le conflit, envoie des troupes ou quoi que ce soit de ce genre, mais qui pousse l'Azerbaïdjan à accepter des contacts entre les Azéris et les Arméniens. Enfin, il faut voir à quel niveau élémentaire on se plaçait. On avait vraiment des exigences minimalistes que l'Union européenne vienne au Karabakh, qu'on implique les gens du Karabakh dans ce type de dialogue, etc., etc. L'Union européenne a financé des programmes. Et finalement, les ONG, par la pression de l'Azerbaïdjan, les ONG internationales, donc il y avait des millions d'euros de l'Union européenne, les ONG internationales qui étaient impliquées, donc International Alert, Crisis Group et d'autres, qui sont des grands professionnels, n'avaient pas le droit d'aller au Karabakh, qui est le territoire concerné par le conflit. Et l'Union européenne acceptait ça. Donc l'Union européenne n'avait même pas le courage politique d'obliger l'Azerbaïdjan à accepter des mesures de confiance. Autrement dit, l'Union européenne n'a rien fait sciemment. Donc on leur a dit, répété, que c'était indispensable. Ils ne l'ont pas fait. Donc au niveau des mesures de confiance, en attendant, en Azerbaïdjan monte une haine anti-arménienne alimentée par la propagande. L'Arménien, c'est le diable qui se nourrissait de ce qui existait déjà en Turquie. Et c'est ça qui, logiquement, aboutit à la guerre. Puisque si vous avez un ennemi... à la moindre difficulté que rencontre le dirigeant, il peut détourner l'hostilité et la colère populaire vers cet ennemi. Et au fur et à mesure, ça crée une pression qui mène logiquement à la guerre. Donc l'Union européenne, on peut dire par son silence, est largement complice, sauf à dire que l'Union européenne est une puissance traditionnelle qui s'occupe uniquement de ses intérêts. Mais ça n'a jamais été le discours de l'Union européenne. Le discours de l'Union européenne, c'est créer un continent de paix.
C'est l'idée.
C'est l'idée que l'Union européenne a trahi sciemment.
Ici en Belgique, il y a un rassemblement qui va se tenir mercredi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
En effet, donc nous restons mobilisés tant que la guerre existe. Tous les Arméniens de Belgique veulent faire ce qu'ils peuvent pour d'abord alerter leurs compatriotes et ensuite alerter notre gouvernement et les institutions européennes. Les gens veulent agir tout de suite. Et donc, on aura un grand rassemblement, cette fois-ci européen. Donc, on aura des gens qui viendront de France, de Hollande, d'Allemagne. Enfin, on verra d'où ils viennent. Et on se retrouve à Bruxelles, 8h du matin, mercredi. Alors, pourquoi 8h du matin, mercredi ? Parce qu'à 9h15, un débat commence au Parlement européen. Sur ce conflit. Et ce débat, on espère, sera suivi d'une résolution par le Parlement européen.
Donc c'est 8 heures où, pardon, j'ai pas...
8 heures au rond-point Schuman.
Au rond-point Schuman,
oui. Voilà, on n'a pas pu malheureusement faire la place du Luxembourg, être à la place du Luxembourg juste devant le Parlement européen. Mais le rond-point Schuman, c'est quand même le symbole des institutions européennes. Et donc, c'est très important pour nous que ce ne soit pas que les Arméniens qui manifestent. Eux, ils connaissent la situation sur place. On voudrait vraiment que nos compatriotes belges se joignent à nous. Je pense que c'est une cause pour tous ceux qui ont soif de justice, qui comprennent les dérèglements du monde actuel. C'est l'une des causes vraiment symptomatiques de ce dérèglement.
Donc un rassemblement. Au niveau du comité, vous avez fait aussi un appel aux dons. Et donc on peut encore envoyer des dons, j'imagine.
Oui, oui, oui. Alors on encourage les gens à donner plutôt des dons en argent, parce que les dons en médicaments ou en équipements sont très difficiles à gérer. Le transport est compliqué. On ne peut pas passer par la Turquie, on ne peut pas passer par la... par l'Azerbaïdjan, le passage par la Géorgie est compliqué, voilà. Donc et les vols, il y a certaines compagnies aériennes qui ont annulé leurs vols pour éviter les risques. Donc on encourage les dons en argent. Et il y a un fonds central qui a été créé en Arménie qui s'appelle Himnatram, ça veut dire fonds arménien, .am, qui est la terminaison pour l'Arménie.
Et mais... donc qui reçoit sur place et qui dispatche là où il y a besoin, en fait.
Oui, c'est ça. Qui consacre directement l'argent aux besoins essentiels, donc pour soigner les réfugiés, pour soigner les blessés, etc.
Et en toute transparence, j'imagine.
Oui, en toute transparence. Et certainement, et les dons sont affichés en tout cas sur leur site web. Dès que les dons sont reçus, ils sont affichés sur le site web. Et nous suivons avec eux. Enfin, je suis personnellement en contact avec leur président. Et nous suivrons l'utilisation des fonds.
Et pour ça, on retrouve les informations sur le site du comité, qui est armencom.be.
Effectivement. Ouais. Et si vous êtes d'accord, on pourra mettre le site web de la Fondation sur votre site.
Ah oui,
avec le podcast, on va mettre le lien vers le site.
On mettra aussi les coordonnées du compte du comité. Si les gens préfèrent donner au comité, nous, on transmet ensuite à la fondation. Puisque par la fondation, il faut payer par PayPal internationalement. Enfin, voilà. Si les gens n'ont pas.
Ouais, c'est plus facile de passer par la communauté de Cal.
Voilà. Mais on transmet en tout cas l'intégralité des fonds et nous, on fait rapport à notre assemblée. Ça, c'est de l'information publique.
Il est 8h46. Merci en tout cas, Nicolas, d'être venu jusqu'ici, d'avoir gravi ces 5 étages et d'avoir pu nous parler du contexte actuel. Et donc, on rappelle le rassemblement mercredi à 8h au rond-point Schuman.
Merci pour votre invitation et merci pour votre soutien et à tous les auditeurs qui partagent nos préoccupations.